Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Merci d'écouter RFI.
Guillaume Nodin.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal en français facile avec ce soir Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Dans l'actualité de ce lundi, il y a la tension et les violences en Israël. Au moins 20 Palestiniens sont morts dans des bombardements israéliens sur la bande de Gaza en réponse à des tirs de roquettes après plusieurs jours de tension à Jérusalem.
Une attaque informatique contre l'entreprise qui gère les plus importants oléoducs des États-Unis. Les tuyaux commencent à refonctionner. C'est une organisation criminelle qui demande une rançon.
La pandémie de coronavirus dans le monde, l'Inde est toujours le pays le plus touché actuellement, mais la situation s'améliore un peu dans la capitale.
Et puis la mort d'un célèbre tueur en série français, Michel Fourniret, avait 79 ans. Il avait été reconnu coupable des meurtres de 8 jeunes femmes ou adolescentes et condamné 2 fois à la prison à vie.
Le journal, en français facile.
Toujours de fortes tensions et des violences entre Israéliens et Palestiniens.
Au moins 20 Palestiniens ont été tués dans des bombardements israéliens vers la bande de Gaza. Des roquettes ont été tirées vers Israël depuis cette bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste armé Hamas. Le Hamas avait menacé l'État hébreu de représailles s'il ne retirait pas ses forces de sécurité de l'esplanade des mosquées à Jérusalem, où ont eu lieu des incidents depuis 3 nuits. Ces incidents entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées ont fait plus de 300 blessés. De nouveaux incidents ont eu lieu aujourd'hui dans la vieille ville de Jérusalem. Le mur des lamentations a été évacué. Sami Boukhlifa, vous êtes notre envoyé spécial permanent sur place. Vous vous trouvez dans la vieille ville de Jérusalem. Quelle est la situation ?
Extrêmement violente, Guillaume. La journée a commencé par des affrontements et elle est en train de se transformer en conflit armé. Ce matin, tout débute sur l'esplanade des mosquées, donc vous l'avez dit. Des heurts éclatent entre police israélienne et jeunes palestiniens. Tirs de balles en caoutchouc d'un côté, jets de pierre de l'autre. Ce soir, on passe à un autre niveau de violence. Des roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza contre le territoire israélien. Et notamment, c'est très très rare, contre la ville de Jérusalem. Le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne, a revendiqué cette attaque qui intervient, je cite, « en réponse aux crimes commis par les forces d'occupation ». L'aviation israélienne a riposté en bombardant Gaza. Plus de 20 personnes ont été tuées. Et la situation ici, à Jérusalem, reste très très tendue. Des affrontements sporadiques opposent la police israélienne aux jeunes palestiniens rassemblés à l'entrée de la vieille ville.
Merci Sami Boukhlifa, envoyé spécial permanent de RFI à Jérusalem.
L'un des plus importants exploitants américains de l'oléoduc est en difficulté après une attaque informatique.
Colonial Pipeline a dû fermer ses tuyaux qui transportent de l'essence ou du diesel à travers le pays. L'entreprise gère près de 9000 km de ses tuyaux. Elle a été victime d'un rançongiciel. C'est un programme informatique qui bloque les systèmes et qui demande de l'argent pour faire cesser les perturbations. Le FBI, la police fédérale américaine, dit que c'est le groupe criminel DarkSide qui est à l'origine de ce piratage. Les États de l'Est du pays sont menacés de pénurie de carburant si ces perturbations durent trop longtemps. L'administration américaine prend déjà des mesures pour éviter des ruptures d'approvisionnement dans les prochains jours. Washington, Anne Corpet.
Il n'y a pas encore de pénurie, a fait savoir la Maison Blanche, mais le président américain a déjà levé les restrictions qui pèsent habituellement sur la circulation de camions-citernes. L'armée et le secteur privé seront mobilisés, si c'est nécessaire, pour organiser le ravitaillement en carburant. Le réseau de pipelines immobilisés transporte chaque jour normalement plus de 2,5 millions de barils d'essence, de diesel et de kérosène destinés aux stations-service et aux aéroports de 17 États. La société coloniale dit vouloir remettre le pipeline en opération d'ici la fin de la semaine. Selon le FBI, l'attaque est attribuée à un groupe dénommé DarkSide, des cyberdélinquants expérimentés qui cherchent à soutirer de l'argent de leurs cibles. Selon la police fédérale, l'attaque a été lancée depuis la Russie, mais Joe Biden a dit ne pas avoir la preuve de l'implication du gouvernement russe. Les autorités américaines précisent enfin que puisque l'attaque vise une société privée, c'est à elle de décider si une rançon doit être ou non versée. Anne Corpet, Washington, RFI.
Et les cours du pétrole, le prix du pétrole a connu une brusque hausse dans la journée à la bourse avant de retourner à la baisse ce soir.
Et on part à présent en Inde pour parler de la pandémie.
Le pays a toujours de grandes difficultés à faire baisser le niveau de contamination au coronavirus. L'Inde a enregistré ces derniers jours environ 400 000 cas quotidiens. C'est la moitié de tous ceux rapportés dans le monde. Dans la capitale, toutefois, la crise humanitaire est moins aiguë grâce à une stabilisation du nombre de cas et surtout à l'arrivée d'oxygène qui manquait beaucoup. Sébastien Farcy, notre correspondant dans la capitale indienne, New Delhi, s'est rendu dans un magasin de distribution d'oxygène où les familles des patients attendent de pouvoir remplir leurs bouteilles.
Une vingtaine de grandes bouteilles d'oxygène sont alignées devant un petit magasin de distribution de gaz dans le quartier populaire de Bhogal, au sud de New Delhi. Leurs propriétaires ont la mine inquiète. C'est très difficile d'en avoir, confie cet homme. J'en ai besoin pour mon patron et lui pour son frère qui est à l'hôpital, mais où ils n'ont pas assez d'oxygène. Et cela fait 4 heures qu'on attend. L'espoir grandit cependant. Les ouvriers du magasin travaillent à marche forcée. La file avance et un camion arrive même avec un nouveau chargement d'oxygène. Le deuxième de la journée. Le patron du magasin, Anil Kumar, commence à respirer.
La semaine dernière, nous servions 1000 personnes par jour. La file faisait toute la rue. Maintenant, nous n'envoyons que 250 environ par jour. Et nous obtenons 3 fois plus d'oxygène qu'avant. La situation nous semble être sous contrôle maintenant.
La capitale reçoit 30% d'oxygène de plus que la semaine dernière et le nombre de nouveaux cas a légèrement diminué. La pression baisse donc à New Delhi, mais elle se déplace maintenant vers le sud et l'est de l'Inde, où les habitants des grandes villes commencent à leur tour à manquer d'air. Sébastien Farcy, New Delhi, RFI.
En France, c'était ce 10 mai la journée nationale de la mémoire de l'esclavage.
Cette année, la loi Taubira, qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité, a 20 ans. La France était alors devenue, à l'époque, le premier pays à reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. Le président Emmanuel Macron a assisté à une cérémonie devant le monument à la mémoire des victimes de l'esclavage à Paris, mais il n'a pas prononcé de discours.
Et toujours en France, Guillaume, la mort d'un célèbre tueur en série.
Michel Fourniret avait 79 ans. Il souffrait de la maladie d'Alzheimer et de problèmes cardiaques. Il était surnommé l'ogre des Ardennes et il avait sévi pendant des années dans le nord-est de la France et en Belgique. Il avait été condamné 2 fois à la prison à perpétuité, la prison à vie, et il avait été reconnu coupable des meurtres d'au moins 8 jeunes femmes ou adolescentes. Sa mort met fin aux espoirs d'autres familles de disparus de le voir à nouveau comparaître en justice. Alexis Bédu.
Son château de Sautou dans le nord-est de la France était devenu le symbole de l'horreur. C'est dans cette immense demeure que Michel Fourniret a séquestré, violé et tué des jeunes femmes et adolescentes entre 1987 et 2001. Des homicides, il en a reconnu 8 devant les tribunaux, condamné 2 fois à la perpétuité, avec sa compagne de l'époque, Monique Olivier, complice du tueur en série qui, selon ses propres aveux, devait, je cite, chasser au moins 2 vierges par an. L'ogre des Ardennes, comme il était surnommé, a parfois parlé, mais il s'est souvent tu. Il disparaît aujourd'hui avec ses secrets. Sa mort laisse de nombreuses affaires en suspens, parmi elles la disparition d'Estelle Mouzin en 2003. L'année dernière, Michel Fourniret reconnaissait sa responsabilité dans la mort de la fillette de 9 ans. Monique Olivier déclarait elle aussi en août dernier que son ex-mari avait kidnappé, violé puis étranglé Estelle Mouzin. Mais comme pour la jeune Marie-Ange Domès, le corps n'a pas été retrouvé. La justice n'est pas passée.
Voilà, donc
On termine avec le sport, si vous voulez bien.
Et de football notamment, Guillaume.
Oui, absolument. L'équipe d'Allemagne va avoir un nouveau sélectionneur après l'Euro prévu au mois de juin. Il s'agit de Hans Flick. Une confirmation, il était le favori pour le poste depuis l'annonce de son départ du Bayern Munich à la fin de l'année. Hans Flick a permis au club bavarois de remporter 7 trophées en 2 ans, dont le titre de champion d'Allemagne cette saison. Mais il était en conflit avec la direction du club. Flick va remplacer Joachim Löw qui va partir après 15 ans à la tête de la sélection allemande. Merci d'écouter RFI.